France Culture.
Et signé Stanislas Vazak. Bonsoir Stanislas.
Bonsoir Quentin, bonsoir à tous. Les dernières heures du pape François racontées par son infirmier. Tu crois que je peux le faire, a dit le souverain pontife avant son dernier bain de foule en papa mobile dimanche. Dans un instant, le récit de notre envoyé spécial à Rome, Mathilde Imberti. Les obsèques du pape François seront célébrées samedi en présence de tous les grands dirigeants du monde, à l'exception de Vladimir Poutine et de Benjamin Netanyahou. Les universités américaines répondent à Donald Trump qui veut réduire leur financement. Harvard, Yale et Princeton dénoncent l'entrisme du président américain dans la gestion de leurs établissements. Israël annule les visas d'une vingtaine d'élus français de gauche qui devaient se rendre dans l'État hébreu dimanche. Des élus qui parlent ce soir d'une véritable rupture diplomatique avec la France. C'est donc samedi que le pape François rejoindra sa dernière demeure, la basilique Sainte-Marie-Majeure, en plein cœur de Rome. Une première pour un souverain pontife depuis le pape Clément IX en 1669. Tous les successeurs ont été inhumés ensuite dans la crypte de la basilique Saint-Pierre au Vatican. On va évoquer dans un instant ces obsèques qui rassembleront les dirigeants du monde entier. Mais allons tout d'abord à Rome rejoindre notre envoyé spécial Mathilde Imberti. Bonsoir.
Bonsoir Stanislas, bonsoir à tous.
Mathilde, on en sait un peu plus ce soir sur les dernières heures du pape que la foule avait encore pu acclamer le jour de Pâques sur la place Saint-Pierre.
Oui, le pape est mort à 7h35 hier matin, heure de Rome, heure de Paris. Deux petites heures avant, il est victime d'un malaise, trouve la force de faire un signe à son infirmier personnel, puis tombe dans le coma. Cet infirmier, Massimiliano Strapetti, est le dernier contact du pape. C'est à lui qu'il adresse ses derniers mots pour le remercier de l'avoir encouragé à faire un tour en papa mobile. Dimanche, place Saint-Pierre, la bénédiction Urbi et Orbi est prononcée. Puis le pape, avant de se lancer dans un ultime tour en papa mobile, demande à son assistant médical personnel, tu crois que je peux le faire ? L'infirmier l'encourage. S'en suivent 15 minutes de bain de foule, le dernier de sa vie pour François qui appréciait tant le contact direct avec ses fidèles. Le tour en papa mobile terminé, le pape a donc remercié son infirmier. Merci de m'avoir fait retourner sur la place, entendez place Saint-Pierre. Ses propos, les derniers rapportés de François le sont par Vatican News, le média officiel du Vatican. Ce soir, la dépouille du chef de l'Église catholique repose toujours dans la chapelle de la résidence Sainte-Marthe, un complexe hôtelier qu'il avait choisi comme lieu de vie. Demain matin, elle sera transportée à l'intérieur des murs du Vatican pour rejoindre la basilique Saint-Pierre et pouvoir être vénérée par les fidèles qui le souhaiteront jusqu'à samedi et les funérailles officielles.
Mathilde Imberti depuis Rome avec Hélène Langlois pour les moyens techniques. Ces funérailles samedi qui rassembleront tous les grands dirigeants de la planète, à commencer par Donald Trump et Emmanuel Macron, tous ou presque, puisque Vladimir Poutine ne sera pas à Rome, ce qui lui évitera de croiser le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Avec vous, Noé Pignède, passons en revue les personnalités qui assisteront à ses obsèques.
Le président portugais, le roi d'Espagne et sa femme, ou encore Keir Starmer, le premier ministre anglais, sont attendus. Javier Milei, le président d'extrême droite d'Argentine, pays d'origine du souverain pontife, sera également présent. Après avoir qualifié le pape François de gauchiste, de personnage néfaste et d'imbécile il y a deux ans, Javier Milei lui avait finalement présenté ses excuses quelques mois après son élection. Il lui avait ensuite rendu visite au Vatican. Du côté des absents maintenant, Vladimir Poutine, le président n'a pas de tel projet, a balayé le porte-parole du Kremlin, Dimitri Peskov. Et ce n'est pas vraiment une surprise, hein. Le président russe est sous le coup d'un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale. Il risquerait donc d'être arrêté à son arrivée à Rome. L'autre grand absent sera vraisemblablement Benjamin Netanyahou, lui aussi sous le coup d'un mandat d'arrêt de la CPI. Contrairement au président Herzog, le premier ministre israélien n'a pour l'heure pas réagi à la mort du souverain pontife. Depuis le début de la guerre à Gaza, le pape François avait multiplié les messages de soutien aux Palestiniens et dénoncé la cruauté des bombardements israéliens.
Noé Pignette de la rédaction internationale de Radio France. À noter qu'en France, les drapeaux seront mis en berne samedi sur les bâtiments publics à l'occasion de ces obsèques du pape François. Décision annoncée cet après-midi par les services du premier ministre François Bayrou. La France qui n'a pas décrété de jour de deuil national, contrairement à d'autres pays comme l'Italie, la Pologne ou l'Argentine. C'est un peu en ordre dispersé que la classe politique française a réagi à la disparition du pape François. Les écologistes et une partie de la gauche gauche salue son engagement pour le climat, les migrants et les déshérités. Les hommages de la droite ont été plus discrets. Quant à l'extrême droite, elle se montre beaucoup plus critique à l'égard du pontificat de François. Bonsoir Antoine Maret.
Bonsoir Stanislas.
Une extrême droite critique dans l'ensemble, mais avec quelques nuances, Antoine.
Effectivement, au Rassemblement national, chaque chose en son temps respecte la période de deuil des catholiques. Une figure spirituelle s'éteint, laissant derrière elle un héritage de foi, de paix, de dialogue, écrit Marine Le Pen sur X. Jordan Bardella salue un pontificat marqué, je cite, par une attention constante portée aux oubliés, à la dignité des plus fragiles. Mais le président du RN a eu dans le passé des mots très critiques à l'encontre du pape François, comme par exemple en septembre 2023 sur BFM TV.
Ce que je déplore dans le discours du pape, il ne pense jamais aux peuples d'Europe et aux sociétés européennes qui précisément eux subissent donc les conséquences.
Est-ce que vous trouvez les conséquences qu'il de l'immigration fasse de la politique?
Je crois que ça n'est pas son rôle. Il n'a pas conscience du problème de l'immigration aujourd'hui en Europe qui déstabilise les sociétés européennes.
Dans le sillage du RN, Marion Maréchal, catholique assumée, se contente d'un laconique message sur X. Le pape François rejoint Dieu ce lundi de Pâques, paix à son âme. En septembre 2024, elle se disait dérangée et attristée par les propos du pape sur les migrants. Éric Zemmour assume quant à lui un hommage vachard. Pour certains catholiques, le pontificat de François fut une épreuve dans leur foi, dans l'Église, et d'ajouter « je fais des vœux pour que l'Esprit Saint éclaire son successeur ». Mais le plus critique à l'encontre du pape François, à l'extrême droite, c'est le très catholique Philippe de Villiers. En tant que chef d'État, il a toisé la France, lui témoignant à plusieurs reprises du mépris. Il voyait d'un bon œil le multiculturalisme et l'islamisation de l'Europe. En tant que chef de l'Église, il a persécuté les chrétiens attachés à la tradition. Et de conclure, c'était un pape woke, le pape des minorités, des périphéries. Seul même Philippe de Villiers avait en revanche salué, à la mort de Benoît XVI, la mémoire d'un grand théologien.
Éclairage signé Antoine Maret. Il est un autre domaine où le pape François ne faisait pas forcément l'unanimité, c'est la lutte contre le réchauffement climatique. Le souverain pontife s'est certes mobilisé pour faire appliquer l'accord de Paris destiné à limiter la hausse des températures, mais lors des négociations climatiques internationales, le Vatican a plutôt eu une attitude discutable. C'est en tout cas l'avis d'Anne Barr, experte genre et climat au sein de l'association économiste WECF, Women Engage for the Common Future.
On peut saluer son encyclique Laudato Si de 2015, qui a effectivement appelé à placer l'écologie et la justice sociale au cœur des priorités politiques et religieuses. Et c'est vraiment une critique de la surconsommation qui mène aux crises climatiques. Mais aujourd'hui, on voit bien que la doctrine du Vatican reste quand même assez réactionnaire, on peut dire, notamment les enjeux autour de la santé reproductive et sexuelle et le droit reproductif et sexuel, qui inclut l'accès à la contraception et le droit à l'avortement. Alors le lien avec le climat dans tout ça, c'est que ce sont les crises climatiques et l'impact de ces crises climatiques qui ont des conséquences catastrophiques sur les droits et la santé reproductive des femmes, l'absence d'accès aux soins, les violences de genre qui génèrent souvent des grossesses non désirées, des mariages précoces et forcés. Et là-dessus, on ne peut donc pas se dire écologique si on ne reconnaît pas que parmi les plus vulnérables, il y a les femmes et qu'il y a des droits fondamentaux à garantir pour que les plus vulnérables soient protégés de la crise climatique.
Quelle est l'attitude à ce moment-là du Vatican, petit État, dans ces négociations onusiennes ?
Il y a un véritable lobbying en alliance avec d'autres pays qui sont également très rétrogrades sur ces sujets-là, comme les pays du Moyen-Orient, l'Arabie Saoudite par exemple, ou encore la Russie aujourd'hui. Et donc on ne peut pas avoir des politiques climatiques justes sans une égalité de genre et sans notamment un plan d'action genre à la prochaine COP.
Anne Barr de l'association WECF répondait à Véronique Robérotte. La COP 30, la prochaine conférence de l'ONU sur le climat, se tiendra en novembre prochain à Belém au Brésil. L'environnement aujourd'hui, c'est aussi la journée de la Terre, 55e édition de cette opération lancée par l'ONU pour promouvoir l'éco-citoyenneté. On s'intéresse ce soir à l'initiative d'un couple engagé dans la lutte contre le dérèglement climatique. Célia Poncelin et Léo Primard ont 31 ans. Ils viennent de réaliser un documentaire sur leur engagement familial, un premier film intitulé « Inaction » qui raconte la difficulté de cet engagement. Azaïs Perronin a assisté à l'avant-première.
En fait, on est trop fiers de vous le montrer ce soir. l'histoire de cette famille ordinaire qui est confrontée à un enjeu planétaire. On espère que ça résonnera avec beaucoup d'entre vous.
Face à une salle comble, Célia et Léo présentent avec émotion leur premier film sur lequel ils ont travaillé pendant 2 ans. Un documentaire qui traite du passage à l'action en famille.
On trouve que c'est difficile de parler de ces sujets d'écologie en famille, parce qu'en fait la famille c'est le premier lieu d'acceptation, mais c'est aussi le premier lieu de jugement, et encore plus dans ces sujets liés aux limites planétaires. Et donc on avait envie d'embarquer des personnes avec nous pour que tout le monde puisse s'identifier au papa de Célia, ou à la cousine de Célia, ou mon cousin.
Donc 3 personnes qui ne sont pas forcément engagées sur les sujets climatiques, et on les a emmenées dans un road trip pour les faire rencontrer des personnes engagées. Et il y a des interviews de chercheurs tout du long pour essayer de comprendre le passage à l'action.
Eux-mêmes ont pris du temps à s'engager. Avant d'avoir le déclic, ils étaient tous deux responsables marketing en entreprise.
J'ai pris une claque climatique il y a 6 ans au moment du Covid. En fait, j'étais en CDI avant dans un job à 1000 à l'heure avec beaucoup de déplacements à l'étranger. Et quand tout s'est arrêté, je me suis rendu compte qu'en fait, on était au bord du gouffre. Et ça m'a complètement chamboulée.
Et du coup, 1 ou 2 mois après, on a tous les deux décidé de quitter notre job pour s'engager. Parce qu'on avait compris qu'on avait une valeur capitalistique qui était assez élevée dans nos anciens métiers avec des responsabilités, mais une valeur sociétale qui était quasiment nulle. Donc on avait besoin de retrouver du positif et surtout de se mettre en action pour essayer de combattre un peu l'éco-anxiété qu'on commençait un peu à apercevoir et à ressentir.
Passer ce cap n'est pas forcément évident, comme en témoigne l'inertie de leur famille, pourtant consciente de l'enjeu. À travers leur film, ils incitent à maintenir le dialogue, à échanger sur les actions individuelles.
Un des plus gros apprentissages du film, c'est vraiment sur l'influence sociale. Quand on change de comportement, ça a une influence sur les autres, même sans s'en rendre compte. Par exemple, quand je réduis ma consommation de viande et que je commence à parler de ma démarche en toute bienveillance, forcément ça va inviter les autres à se questionner autour, et c'est comme ça que le changement il peut être systémique et qu'une personne peut finalement entraîner un mouvement massif.
Ah, merci. Et je vais juste finir par une phrase de François Gémen qui dit que les enjeux climatiques n'ont pas un problème de notoriété, mais un problème d'adhésion. Donc maintenant, à nous tous et toutes, de mobiliser les gens autour de nous.
Voilà pour ce reportage signé Azaïs Perronin. Inaction, le documentaire de Célia Poncelin et Léo Primard, sera diffusé à 20h50 ce soir sur Ushuaïa TV. Aux États-Unis, une 100aine de présidents d'universités, dont les prestigieuses Harvard, Yale ou Princeton, dénoncent aujourd'hui l'interférence politique de l'administration Trump. Depuis son retour à la Maison-Blanche, Donald Trump a fait de ses institutions l'un des champs de bataille de sa guerre idéologique et culturelle contre le wokisme. Le monde académique lui répond en renserré dans une lettre ouverte pour la première fois. Loïc Loury nous appelle de New York.
Une démonstration d'unité de 4 paragraphes signée par des dizaines de présidents d'université. Nous parlons d'une seule voix, affirme-t-il, contre une ingérence sans précédent qui menace l'enseignement supérieur. Parmi les signataires, les toutes puissantes facultés de l'Ivy League, Harvard, Yale, Princeton ou Brown. Nous sommes ouvertes à des réformes, assure-t-elle, tout en s'opposant à l'introduction du gouvernement sur les campus et à l'utilisation coercitive du financement de la recherche. Depuis 3 mois et sous couvert de lutte contre l'antisémitisme, l'administration en effet menace de coupes budgétaires massives les universités qui n'accéderaient pas à ces demandes, interdiction des manifestations entre autres choses et jusqu'à la mise sous tutelle de certains départements d'études. Et si Columbia a fini par plier, ce n'est pas le cas de Harvard qui mène la charge contre Donald Trump. Hier, l'institution a porté plainte contre le gel de plus de 2 milliards de dollars de subventions.
Loïc Loury, correspondant aux États-Unis. Conséquence des droits de douane américains, le FMI revoit à la baisse sa prévision de croissance mondiale pour cette année, 2,8% au lieu des 3,3% envisagés en janvier. Pour la France, cette croissance ne serait plus que de 0,6% contre 0,8% dans la prévision initiale du Fonds monétaire international. En Inde, une attaque contre des touristes au Cachemire a fait au moins 24 morts aujourd'hui. Des hommes armés ont ouvert le feu sur des touristes à Palagam, près de Srinagar. L'attaque n'a pas été revendiquée. Le premier ministre indien Narendra Modi dénonce un acte odieux. Le Cachemire est une région à majorité musulmane, revendiquée par le Pakistan. C'est aussi une destination touristique majeure en Inde qui a attiré l'an dernier 3,5 millions de visiteurs. La vingtaine d'élus français de gauche qui avaient prévu de se rendre en Israël et dans les territoires palestiniens à partir de dimanche ne décollèrent pas. Vendredi dernier, les autorités israéliennes ont annulé tous leurs visas d'entrée. Il s'agissait pourtant d'une invitation officielle du consulat français à Jérusalem. Députés, sénatrices, maires et conseillers municipaux, ils ont pris la parole aujourd'hui à Paris pour fustiger ce qu'ils appellent une décision choquante et une rupture diplomatique. Jeanne Serrin, bonsoir.
Bonsoir Stanislas, bonsoir à tous.
C'est la première fois qu'une délégation aussi importante de responsables politiques français se voit refuser l'accès au sol israélien.
Oui, et pourtant cela fait plus de 30 ans que ces voyages ont lieu, organisés notamment pour des villes françaises jumelées avec des camps de réfugiés palestiniens. Ali Rabet, maire de Trappes dans les Yvelines.
Au moment où je vous parle, je devrais être dans le camp d'El Fawar, qui est tout près de la ville d'Hébron. On avait préparé ce déplacement pour pouvoir envisager un jumelage entre nos communes et donc entre nos populations, voir comment on pouvait accompagner des projets de développement, d'accès à l'eau et contribuer à construire des ponts entre nos peuples.
Sur place, ils auraient dû rencontrer l'ambassadeur de France à Tel Aviv, des députés de la Knesset, des Israéliens aussi, engagés pour la paix et surtout observer ce que la guerre à Gaza occulte, la vie dans les territoires palestiniens. Philippe Rio est maire de Grigny.
Dans le camp de Haïda, qui est situé entre le mur de séparation et Bethléem, camp de réfugiés avec lequel Grigny est jumelé, nous participons au financement des cours de français. Et donc, les voir sur place, comprendre ce que cela apporte, était quelque chose de très important.
C'était aussi l'occasion pour le député de la Somme, François Ruffin, de rendre plus concret en France le combat pour la paix.
J'aime bien défendre non pas des statistiques, mais aussi défendre des gens qui ont des noms, des voix, des visages. Ramener ces images-là aurait fait que j'en aurais parlé avec plus de force. J'aurais pas seulement défendu un principe, mais des gens.
La sénatrice Marianne Margaté dénonce, elle, une mesure bâillon.
L'idée, c'est de nous bâillonner les yeux, nous bâillonner la bouche pour nous empêcher de parler. Certains ont pu, les représentants du Rassemblement national sont accueillis à bras ouverts en Israël. Donc c'est en termes de relations diplomatiques extrêmement graves.
Une annulation qui intervient quelques jours seulement après qu'Emmanuel Macron se soit dit prêt à reconnaître un État palestinien, ce qu'appellent aussi de leur vœu ses élus de gauche. Ils demandent désormais au président de la République de dénoncer leur exclusion du sol israélien. Pour l'heure, ni le chef de l'État, ni le ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, n'a commenté cette décision des autorités israéliennes.
Jeanne Serrin, merci. De son côté, le ministère de l'Intérieur israélien justifie l'annulation de ses visas en vertu d'une loi permettant d'interdire l'entrée du territoire à des personnes qui veulent agir contre l'État d'Israël. Fin de citation. Ils avaient été licenciés pour avoir distribué à des SDF des sandwichs invendus. Quatre anciens salariés des enseignes Starbucks et Prêt-à-Manger à l'aéroport de Marseille sont sortis de leur silence ce matin avec le soutien de la CGT. Ils ont tenu une conférence de presse pour dénoncer leur licenciement pour faute grave. Des salariés obligés de prendre des précautions avant de s'exprimer. C'est un reportage de Mathilde Vinceneuf.
Les quatre salariés se présentent masqués et parlent sous pseudo par peur des menaces. Tous travaillaient depuis de longues années pour la société SSP, prestataire des enseignes Starbucks ou encore Prêt-à-Manger à l'aéroport de Marseille. Sabri avait 30 ans d'ancienneté. Depuis son licenciement, il a du mal à dormir et à s'alimenter.
Je ne comprends pas ce qui nous tombe sur la tête. Du jour au lendemain, perdre son job pour une bonne action, tout cela parce que j'ai donné à manger à des personnes en difficulté. Au lieu de les mettre à la poubelle. On ne comprend pas.
Depuis de longues années, les sandwichs invendus étaient redistribués aux sans-abri et aux travailleurs précaires. Comme c'est le cas dans beaucoup d'aéroports, explique Sonia, autre salariée licenciée.
Depuis que dans la société, ça a toujours été comme ça. La direction était au courant. Il y a des caméras de partout dans l'aéroport. On n'était pas en train de se cacher, on était là visible.
Alors comment expliquer ce licenciement soudain pour faute grave pour des employés qui avaient entre 10 ans et 30 ans de service? Nicolas Guglier-Macci, secrétaire local de la CGT.
On se pose la question de s'il n'y a pas des licenciements économiques déguisés derrière. Il n'y a pas de petites économies souvent dans ce milieu-là.
La CGT appelle au rassemblement vendredi à 11h30 dans l'aéroport de Marseille et demande la réintégration des quatre salariés.
Mathilde Vinceneuf pour ce reportage à Marseille. De son côté, la direction de la société SSP affirme, je cite, qu'aucun de ses salariés n'a le droit de partir avec de la marchandise destinée à être jetée. On termine ce journal avec un mot du temps. Demain, il restera perturbé sur les deux tiers nord du pays, avec une nouvelle zone pluvieuse qui arrive par la Bretagne. Quatre départements restent en vigilance orange pour le risque de crue. La Charente maritime, la Dordogne et la Gironde. Ailleurs, le ciel sera variable. Demain matin, il fera entre 4 et 10 degrés en général. L'après-midi, comptez entre 13 et 18 degrés du nord au sud, jusqu'à 25 degrés du côté de la Méditerranée. C'est la fin de ce journal, préparé ce soir avec Brice Garcia. À la technique ce soir, il y avait François Saint-Jour.